RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, aujourd'hui un trio de GG composé d'Étienne Liebig, éducateur, Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion, et Charles Consigny, avocat. Vous avez la première heure des GG qui est déjà disponible sur nos podcasts en allant sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Si vous allez sur rmc.fr et sur l'onglet des grandes gueules, vous pouvez choisir aussi notre sujet, votre sujet de 11h. De quoi voulez-vous que nous parlions ensemble? De la grève chez GRDF qui a privé 1500 foyers de chauffage, ou bien sans la sanctuarisation des trottoirs pour les piétons. Voilà, c'est-à-dire que désormais les trottinettes, ça serait interdit de circuler sur le trottoir, trottinettes.
Les vélos aussi, hein.
Ouais, les vélos, les rollers,
les
et autres modes de déplacement. Donc c'est sur rmc.fr que ça se passe. Maintenant, parlons de l'embauche. Est-ce qu'on doit embaucher en priorité les Français? C'est le souhait du ministre de l'Économie, monsieur Bruno Le Maire.
RMC, les grandes gueules.
Le recours à l'immigration de travail ne peut être que le dernier recours. Donc encadré, donc limité, et en gardant, une fois encore, comme priorité absolue, de faire revenir sur le marché du travail, avec un emploi, avec une rémunération, avec un bon salaire, ceux de nos compatriotes qui en sont le plus éloignés.
Voilà ce que dit le ministre de l'Économie, monsieur Bruno Le Maire.
Attribuer une priorité aux travailleurs français par rapport aux étrangers, c'est ce que défend depuis toujours Marine Le Pen. Mais quand c'est Marine Le Pen qui le dit, c'est mal. Quand c'est Bruno qui, Le Maire qui le dit, ça semble être du bon sens, à savoir que effectivement les Français doivent être prioritaires dans les métiers en tension. Alors le problème, c'est que visiblement ils ne veulent plus travailler dans certains métiers. C'est pour ça qu'on embauche des étrangers. Bah oui. Est-il possible juridiquement d'attribuer la priorité aux Français par rapport aux étrangers en matière d'emploi? Alors le droit français prévoit un principe de non-discrimination en matière d'emploi. Néanmoins, il y a des exceptions. Par exemple, dans la fonction publique, hein, les emplois titulaires de la fonction publique sont fermés aux étrangers extra-européens, sauf ceux de médecins hospitaliers et d'enseignants-chercheurs. Donc là, il y a déjà une préférence française.
Et de contractuels.
On peut pas, par exemple, employer des étrangers dans la police, dans l'armée, la diplomatie, les impôts, la justice. Ce sont des métiers qui sont fermés à tous les étrangers. D'ailleurs, selon l'Observatoire des inégalités et un rapport qu'ils avaient fait en 2019, un emploi sur cinq est aujourd'hui fermé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne en France. Donc la préférence française existe déjà pour certains métiers.
Ce que je ne comprends pas, c'est soit c'est une critique du patronat en disant les patrons préfèrent embaucher des étrangers plutôt que des Français pour des raisons que je vous laisse imaginer. Soit ils sont plus facilement exploitables, soit on les paye moins cher, soit par exemple sur des récoltes ça revient moins cher, ou alors ils sont plus courageux, ou alors on peut les faire travailler 50 heures à la place de 35, je ne sais pas. Mais alors c'est une critique ouverte du patronat français qui mettrait mais pour le reste, comment on ferait? Ça veut dire que dans un emploi, quand il y a à la fois un travailleur étranger qui se présente et un travailleur français, ce ne serait pas sur la compétence, les qualités, etc., etc., mais ce serait sur le fait que le type serait français. Il n'y a aucun patron au monde qui va embaucher quelqu'un d'incompétent ou de moins compétent parce qu'il est français. Donc je n'arrive pas à piger ce que ça veut dire profondément.
C'est qu'il y a des Français qui devraient se mettre au boulot et qu'ils se mettent
au
boulot.
Oui, alors si c'est ça.
C'est ce qu'il dit, le maire.
Alors ça ne se résout pas. Ça ne se résout pas par une priorité aux Français. Ça se résout par le fait de payer correctement les gens qui viennent bosser.
Est-ce que c'est uniquement ça?
Mais on a un taux de chômage aujourd'hui de 7%.
Oui, on n'est pas dans le plein emploi.
On n'est pas dans le plein emploi. Le taux de chômage des immigrés légaux en France, il est de 15%. Mmh. Donc déjà, une personne en France qui est légale, qui doit pouvoir travailler, qui est un actif, ils sont deux fois plus au chômage. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mettre au travail les Français et les étrangers immigrés en situation régulière qui sont capables de travailler. Et ensuite, c'est pour ça que la proposition qui avait été faite complètement saugrenue et, il faut le dire, profondément débile, de dire on va en plus aller chercher de la nouvelle immigration.
C'est Darmanin qui dit ça.
Darmanin, ouais. Voilà. Mais là,
c'est gentil, les méchants. Il en veut pas, les gens, il veut les gentils.
Mais qu'est-ce que fait là Bruno Le Maire? Il répond à Gérald Darmanin. Il dit à Gérald Darmanin, ton histoire de faire venir des immigrés pour faire des accords sur des emplois de forte tension, c'est nul. Il faut d'abord faire travailler les Français. Mais c'est pas seulement les Français qui peuvent travailler.
Ça veut dire quoi faire travailler les Français dans les grands mondes?
Il faut faire travailler d'abord, il faut donner d'abord des emplois à ceux qui aujourd'hui sont au chômage. Ah oui. Et ceux qui sont au chômage, ce sont des Français, mais ce sont aussi des immigrés.
Qui sont déjà là, en fait.
Qui sont déjà là.
Ah ouais, chercher d'autres.
Et qu'il faut en effet aussi faire travailler. Parce que si vous ne faites pas travailler les 15% d'immigrés chômeurs, ça mais pose aussi un problème.
Est-ce qu'on est obligé?
Donc la priorité, elle est là. Elle n'est certainement pas de faire venir des nouveaux migrants, ça c'est sûr.
Sommes-nous obligés de tomber dans tous les panneaux politiques que nous tendent les hommes politiques en campagne? Moi, je pense que Bruno Le Maire est en campagne.
Déjà.
Oui. Et d'ailleurs, oh,
il
voit bien.
Hein.
Il prend de l'avance.
Mais tu vois bien qu'il fait une espèce de strike avec cette interview, puisque. Il fait parler de lui à la fois sur les abus McKinsey, donc en fait ça c'est une balle contre Macron, et ensuite il fait parler de lui sur cette question des travailleurs étrangers, donc ça c'est une balle pour Darmanin. Donc en réalité, il tire dans tous les coins, il a fait des réunions efficaces avec des conseillers efficaces, et il fait des interviews qui sont
performatives. Mais sur le fond, est-ce qu'il a raison?
Et alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas obligé de tomber dans tous les panneaux, c'est que je pense que c'est de la pure incantation. Il faut qu'on arrête de penser que ces gens en costume depuis leur bureau à Bercy ont la main sur quoi que ce soit. Ils ne maîtrisent rien. Moi, je peux faire la même interview, ça aura le même effet que si c'est Bruno Le Maire, Darmanin ou un autre. Ils n'ont pas la main sur la politique migratoire, ils ne contrôlent pas qui rentre, qui sort, qui se maintient sur le territoire français, ils n'ont pas la main sur la situation économique du pays, à part pour créer de l'inflation et de la paresse en distribuant des milliards d'euros au nom du quoi qu'il en coûte. Et donc, ils n'auront pas la moindre possibilité de contrôler si les employeurs vont employer demain des Français ou des étrangers. Les employeurs, ils sont confrontés à des réalités beaucoup plus concrètes. Ils ont un carnet de commandes, ils ont des dettes, ils ont des charges, et donc ils vont voir en fonction de ça, en fonction de leurs besoins, qui ils embauchent et qui ils n'embauchent pas. Et crois-moi que les moulinets des uns et des autres ne seront d'aucun effet.
Il y a surtout un moulinet qui est inentendable de la part de Bruno Le Maire, c'est de bondir sur sa chaise comme un cabri, comme dirait l'autre, pour dire qu'il faut augmenter les salaires. Mais quand il va voir le MEDEF, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit rien. Il leur dit même les super profits, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça suffit de prendre les gens pour des benêts. Un coup, il va brosser le MEDEF dans le sens du poil, et après, il vient à la télé pour dire faut augmenter les salaires. Non, mais il est ministre de l'économie.
Oui, mais l'exemple
Bruno Le Maire de côté.
Non, mais l'exemple le plus évident, je veux dire, c'est la restauration, puisque.
Et le BTP.
Et le BTP. Eh ben, oui, voilà. Le BTP, la restauration. Comme par hasard, dans la restauration. Non, mais je dis la restauration parce qu'on est toujours en train de voir des émissions de télé sur la cuisine. Tous les Français sont devenus des cuisiniers. Tout le monde s'est cuisiné. On est tous extraordinaires.
Mais ils veulent cuisiner chez eux.
Tu rentres dans une cuisine aujourd'hui. Tu rentres dans une cuisine aujourd'hui, y compris dans certains grands restaurants. Ce sont des Pakistanais qui travaillent partout. Systématiquement
bien,
dans la cuisine collective et dans les cuisines et dans la cuisine des restaurants.
Oui, mais le chef est mais pourquoi?
Ce sont des Pakistanais.
Pourquoi dans le bâtiment, Étienne, dans pourquoi le est-ce qu'on prend Ravish plutôt qu'Étienne?
Parce que pour le salaire qu'on lui propose, on ne trouve pas bon. Parce qu'il bosse.
Et donc aussi
idem dans le BTP que je connais un peu parce que j'ai beaucoup d'amis qui y travaillent. Idem dans le BTP, c'est-à-dire non seulement on prend des gens et en plus on les embauche sur des temps courts. C'est aussi ça le gros avantage, notamment des migrants, c'est qu'on peut les embaucher au moment où une boîte a une énorme coup de pression, on embauche des gens et puis après on les lâche.
Mais
ce qu'on peut pas faire avec des employés français.
D'accord, sans doute, mais ce sont des métiers souvent difficiles. Il y a aussi quand même tout. On nous sort là des études sur la grande flemme. Les Français seraient flemmards. Maintenant, auraient la flemme, le droit à la paresse, etc. Enfin, je veux dire sincèrement, on est dans deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté, les Français s'interrogent sur est-ce que je peux paresser, est-ce que je peux être flemmard, est-ce que je peux ne pas travailler, etc. Et puis de l'autre, pour faire tourner l'économie française, on a besoin de gens qui bossent.
Ah oui.
Je veux dire, faut arrêter. Mais... Oui, mais faut arrêter de
t'as raison. Arrêtons l'hypocrisie.
Arrêtons cette hypocrisie.
Tu vois, c'est ce qu'on dit.
Pour que les bus fonctionnent, les maisons se construisent, pour que les restaurants tournent.
Mais je vais dire, j'ai été
que les tramways se construisent.
J'ai été faire une mission à Francfort.
Non, mais je veux dire, même Sandrine.
À Francfort, les gens ne sont pas.
Oui, mais cette hypocrisie vient de la gauche, essentiellement. Quand Sandrine Rousseau, j'ai encore entendu ce week-end, nous explique, oui, le droit à la paresse, etc. Oui, mais Sandrine Rousseau, elle veut aussi qu'il y ait des tramways. Sandrine Rousseau, elle veut aussi qu'il y ait des tramways. Mais les tramways, ils ne sont pas faits par des gens qui paraissent, ils sont faits par des immigrés qui travaillent beaucoup.
Mais Olivier, tu ne comptes pas leurs heures.
Les Français.
Maintenant, les jeunes Français, Olivier, ils veulent s'investir pour l'écologie.
Oui,
ils veulent,
travailler.
Ils veulent faire des documentaires, ils veulent réaliser des films.
C'est aujourd'hui qu'ils veulent être comédiens et rappeurs, les Français.
Ils sont artistes.
Naturopathes, tu dis.
Ils sont naturopathes. Va dans le 11e arrondissement de Paris, tu vas voir si les gens conduisent des bus et font des ravioles dans les cuisines de restaurants. En revanche, ils veulent qu'il y ait des bus. Mais ils veulent aussi que le CNC finance leur velléité artistique et qu'il y ait des fonds pour financer leur formation en naturopathie et qu'il y ait de la banque publique d'investissement pour financer leur start-up complètement foireuse de distribution de bananes à domicile. Mais oui, c'est ça la jeunesse française. Et le week-end, il ne faut pas leur demander de bosser. Et le soir, il ne faut pas leur demander de bosser. Et à partir de 17h, il ne faut pas leur demander
de
bosser.
C'est pas français.
Et pendant les vacances scolaires, il ne faut pas leur demander de bosser.
Ils ont besoin d'être chez eux, ils ont besoin de regarder
les 45 épisodes de la dernière série Pouraf qui est sortie sur Netflix, chez eux avec Bobonne. Ils ont besoin de tout ce temps pour eux. Et c'est ça les Français aujourd'hui.
Mais
et après, ils votent Macron parce que Macron leur fait des sourires et leur garantit qu'il va financer ça sur le dos. De qui ? Des quelques-uns qui continuent à bosser, qui donc payent les impôts.
Et notamment des immigrés.
Et notamment des immigrés. Pour que ce système
Attendez, vous allez vous faire un.
Moi, je suis pour la suppression intégrale de toutes ces aides et que les gens
se remettent aux entreprises aussi.
Que les gens se démerdent. Eh bien, tu verras que ça ira beaucoup mieux.
Nous sommes avec Johan. Johan nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour, Johan.
Ouais, salut les Gégés.
Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein, Bruno Le Maire. Donc, il faut redonner la faire revenir au travail nos compatriotes et les immigrés en dernier recours. Alors, qu'en dites-vous ?
Eh ben, moi, j'en dis que pour les faire revenir, c'est compliqué parce qu'il faut, excusez-moi du terme, mais les pousser au cul. Moi, je bosse dans une entreprise de restauration collective. Donc, dans ma campagne à la frontière des Hautes-Pyrénées et du Gers, moi, je suis chauffeur-livreur. Mais mes collègues en cuisine n'arrivent pas à recruter. Alors, les salaires sont pas extrêmement hauts. Aux alentours de 1 600 € à peu près. Encore une fois, Paris n'est pas la France. Là où j'habite, 1 600 €, on vit plutôt pas mal. Hein.
Ouais.
Parce que la vie n'est pas extrêmement chère, les loyers sont pas chers, franchement ça va. Les gens viennent, restent un jour, deux jours, une semaine. Alors soit ils restent un peu plus longtemps, 3-4 semaines, pour se repousser leurs droits, soit ils viennent deux jours et ils pètent un plomb parce que c'est trop dur. Et c'est jamais aucun de ceux qui ne sont pas restés nous a donné la raison du salaire. Hein. Ils nous ont tous systématiquement dit que c'était trop dur, qu'il fallait travailler un week-end sur deux, que des fois le soir ils finissaient un peu trop tard. J'en peux plus d'entendre ça, quoi.
Ah oui.
Ça devient. Alors c'est un effet pervers parce que l'autre souci c'est qu'on a mis un travailleur immigré qui est venu bosser pour nous une fois via une association. Le souci c'est qu'on fait 500 repas par jour. Et que le mec, apparemment très vaillant, il savait ni lire ni écrire.
Ah, c'est embêtant.
Donc, on fait comment ?
Oui, effectivement. Donc là, en fait, vous cherchez les bras, quoi, en fait, Johan.
C'est ça. Mes collègues sont dans une merde noire, ils font des heures supplémentaires en pagaille. Et on a du monde qui vient, mais moi, je suis dans cette entreprise depuis le mois de mars. J'ai peut-être vu passer 20 personnes, mais qui sont
restées deux jours. De quoi vivent ces gens qui restent une semaine et qui s'en vont parce que c'est trop dur ?
Ben, heureusement qu'il y a des gens comme moi qui bossent pour eux.
Oui, mais eux, de quoi ils vivent concrètement ? Parce qu'il faut quand même de l'argent tous les mois pour vivre.
Concrètement, alors en général, c'est soit le chômage. Je vais vous donner un exemple, mon exemple personnel. Je me suis installé dans cette région parce que j'ai rencontré quelqu'un sur place. Au bout de quelques mois, si on veut être dans les clous, si on veut pas frauder, on est obligé de se déclarer officiellement en couple. Avec ce qu'on a perdu en aide, ma compagne et moi, en se déclarant en couple... ça vaut, en calculant, hein, ça vaut à peine le coup que je bosse.
Ah oui, donc vous auriez mieux...
Ouais. Parce que vous aviez quoi comme aide ?
Moi, on m'a toujours dit qu'il faut aller au boulot, donc moi j'irai quand même. Mais en calculant ce que je perds, en étant dans les clous,
pour un enfant,
c'est pas intéressant. Isolé.
C'était parce qu'il y avait un enfant et que votre compagne touchait les parents isolés.
Oui, c'est ça.
Et donc c'est pas tout le monde.
Par exemple, les gens qui veulent pas bosser, selon vous, vivent des aides à la place ?
Alors, il y a, sur les millions de chômeurs qu'il y a, il y a des gens qui ont des problèmes de handicap, il y a des gens qui vivent dans les campagnes, et c'est compliqué parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres pour travailler, il y a des gens qui ont des vraies difficultés, ça peut être de l'illettrisme, tout ce qu'on veut, mais on n'enlèvera pas de l'idée qu'il y a quand même un pourcentage de branleurs dans le lot, hein, excusez-moi.
Non, ça rejoint, c'est pas ça éternel, rejoint ce que disait Charles.
Je rappelle quand même que.
Non, parce qu'il a dit, à aucun moment on a mis le salaire en avant dans tout ce qui est postulé, parce qu'on a l'impression que
si tu travailles pas, voilà, tu touches. Non, alors pour toucher le chômage, il faut avoir travaillé. C'est toujours un pourcentage du travail qui a été fait.
Ah bah quand même, heureusement.
Bien sûr. Et ça disparaît progressivement jusqu'à aller au bout de.
On connaît tous, moi, pardon, je connais des gens, y compris dans ma génération, voire plus jeunes, qui se mettent régulièrement au chômage,
ils travaillent
en fonction de ce qu'ils ont. Voilà.
Bah, tous les saisonniers faisaient ça.
Non, mais arrête de noyer le poisson. Je te parle pas des saisonniers.
Non, on parle pas des saisonniers.
Je te parle des gens qui volontairement, parce qu'ils n'ont pas envie de bosser, dès qu'ils sont éligibles au chômage, s'y mettent autant que possible. Ils y restent jusqu'à la fin de leurs droits. Et à ce moment-là, ils reprennent un boulot. Bah, je suis désolé, c'est honteux.
Merci, Johan, de cet exemple. Johan, bonne journée. À bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Donc, donner la priorité au retour à l'emploi aux Français, les immigrés en dernier recours, c'est ce que souhaite Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes d'accord, les Français?
Les nouveaux immigrés. Faire venir des nouveaux immigrés.
Comme en Allemagne.
Ouais.
Mais nous, on n'en a pas besoin parce que les Allemands, ils ont un problème de démographie. Nous, on n'a pas ce problème.
Non, mais parce que le problème, il est là. De quoi parle Bruno Le Maire? Est-ce qu'il parle des Français?
Il a dit l'immigration en dernier recours.
Faire appel à de nouveaux migrants. Oui, là, on est d'accord.
Mais on ne demande pas toujours
Il y en a déjà suffisamment en France et qui sont eux-mêmes au chômage. Donc, il faut faire travailler tout le monde, pas que les Français, les immigrés,
les immigrés aussi. Pour discuter, en parler avec les GG, avec les grands.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Quel est ton motif de courroux, ma chère Barbara Lefebvre? La partie envoyée sur ton portable.
Non, je regardais le programme d'une formation que je vais suivre et. Comme c'est une formation sur la question animale, on a une séance de psychopathologie de la motricité humaine. Je m'en fiche un peu de la motricité humaine.
Plus elle aime les animaux, moins elle aime les hommes.
Les humains, tu veux dire?
Oui, les humains.
Oui, que veux-tu?
Les hommes avec un H.
Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien.
Ça, c'est ce qui avait dit ça. C'était pas des
Marguerite
proches,
Duras, je crois, mais c'est...
qui n'a pas filmé que les conneries.
C'est Charles Consigny qui a dit ça.
Adassa, bonjour.
Pas de chien.
Bonjour Adassa, juriste. Alors, on parle de la petite phrase de Bruno Le Maire, là, faire donner la priorité au travail à nos compatriotes et l'immigration en dernier recours. Qu'en dites-vous, Adassa?
Déjà, je remercie Barbara pour son point d'exclamation sur les nouveaux immigrés. Et Barbara, merci en tous les cas à chaque fois de le rappeler. Il y a des nouveaux immigrés et il y a nous, les enfants d'immigrés qui sont arrivés il y a 60 ans, qui ont travaillé, qui ont aidé la France à travailler à côté des Français, qui ont appris à vivre avec vous et qui ont très très bien vécu. Et ça, je vous remercie infiniment, Barbara. À chaque émission, je vous entends le dire et c'est hyper important de ne surtout pas.
Oui, bah c'est bon, ça va, Adassa, là, c'est, vous avez vous aurez la tartine de compliments à Barbara.
Non, pas du tout. Non, mais je vous aime tous. J'adore Charles Consigny. Il est percutant. Je vous adore tous.
Oui, mais moi.
Elle a ce truc où elle se gêne pas de faire comprendre qu'il y a certaines causes des fois qui dépassent l'entendement elle se gêne pas même quand c'est des féministes qui des fois débordent et que ça devient n'importe quoi. Et donc en ça, Barbara, merci.
Mais merci Adassa.
Je vous en prie, avec plaisir.
C'est au revoir Adassa, c'est bon. Vous avez tout dit.
Vous avez vexé Alain parce que vous l'avez pas cité.
Allez-y. Alors, Adassa, je vous en prie.
Non, je vous adore tous, je vous le dis. Sinon, je vous écouterai pas. Je vous écoutais depuis Stockholm tous les jours de ma vie.
Et vous étiez en Suède. D'accord.
Ouais. Je vais vous parler de la Suède, parce qu'on parlait du problème de nationaliser ou de donner plus de priorité aux Français. Eh ben, eux ne se gênent pas de le faire. Et ils vous le disent, et ils vous le font comprendre. Et moi qui suis européenne, comme vous, comme eux, quand vous leur demandez, là c'est en ce moment le plus gros problème que j'ai avec eux, j'essaie de récupérer un document, qui est un document, Charles Consigny doit connaître absolument, c'est le document U1, qui est un document, un sésame pour se balader en France et en Europe. Et j'ai eu plusieurs intervenants administratifs, dont l'ambassade française, en leur expliquant que voilà, écoutez, j'ai payé des taxes qui sont de l'ordre sur ma fiche de paye de 3-4 000 euros pour leur pays, et eux, c'est en SEK. Eh bien, écoutez, j'attends toujours que l'ambassade des Françaises déjà me réponde. Elle m'explique qu'elle ne peut rien faire parce que ce n'est pas à elle de faire. Et vous comprenez, la Suède est souveraine. Et donc, à ma question, mais pourquoi nous faire venir, nous, Français, dans des pays comme ça, en nous expliquant que nous sommes des Européens comme eux, alors que finalement, ben non. Eux, ils ont une priorité, c'est les Suédois.
Oui.
Et ils n'ont pas de priorité autre que les Suédois.
Et quand il y a du boulot et qu'il n'y a pas de Suédois qui veulent y aller bosser, ils font comment ?
Ils sont en galère. Ah non, ils sont en galère. Ils ont une immigration qui est extrêmement qualitative, entre guillemets. Et quand je dis qualitative, c'est que j'ai parlé avec des Roumains qui étaient là dans la même résidence que moi à Stockholm, donc à Rotobro, ça s'appelle comme ça. Et il m'a expliqué que son patron, il avait un quota et qu'on lui demandait de ne pas dépasser ce quota d'immigration.
Et donc après, il n'a pas le droit d'embaucher. Et si les Suédois ne veulent pas y aller parce que c'est trop dur, et il peut pas bosser.
Non, mais ça oblige le patron à revoir ses conditions de travail.
C'est ça.
Ça oblige le patron à revoir ses salaires.
Absolument.
Pour permettre justement à ce que des gens l'emploi il soit digne. Et peut-être qu'à ce moment-là, il peut ensuite effectivement embaucher à la fois des Suédois, mais aussi peut-être des Suédois d'origine étrangère.
Adassa, vous êtes en train de dire attention que cette espèce de préférence n'arrive pas en France, quoi. C'est ça, Adassa.
Ça fonctionne en Suède.
Non, justement, moi, c'est pas ce que je dis. Moi, ça ne me dérange pas, en fait, qu'on ait une préférence pour valoriser un peu plus ces produits, ces hommes, ces femmes.
D'accord.
Ça ne me dérange pas. Mais moi, ce qui me dérange derrière, et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est de la façon dont c'est fait. Je vous le dis encore une fois. Bruno Le Maire, moi, comme le dit si bien Charles Consigny tout à l'heure, tout ça, c'est de la posture. Tout le monde peut le faire, aller sur un plateau. Ah oui, nanana. Ah ben oui, les Français d'abord. Ah ben oui, pourquoi ? Parce que le RN est juste à côté et que le RN a dû mettre un petit coup de pression et qu'on leur a fait comprendre qu'il y en a marre.
Parce que le RN a 89 députés. Ouais.
Voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai entendu...
Oui, mais en Suède, regardez, ça a voté aussi en Suède. Ça a voté droite, extrême droite. Hein,
et les aides sociales sont...
Le gouvernement, l'alliance qui est au pouvoir.
Mais moi, je vous le dis, malheureusement. Hein, je le dis et je le répète. Je comprends pas parce que vraiment, les Suédois, par contre, leur peuple, ils sont super cool, adorables. Moi, j'ai travaillé pour un Français là-bas à Stockholm, dans des conditions. Le type, les immigrés français qui sont français comme lui. Bah, là, je vous donne un exemple tout bête. Hein, les Français comme lui, ils nous payaient au minimum du SMIC suédois, 2400 euros.
Minimum. Ah, le SMIC suédois.
Ouais,
2400
ça, c'est
le SMIC
euros.
Suédois.
Ouais.
Ah ouais. Mais tu convertis parce que c'est la couronne suédoise encore là-bas.
Exactement.
Non.
Ah. Oui, mais après tu convertis. Tu convertis.
Si, c'est ça.
Ils sont en couronne. Ils ne sont pas dans l'euro, la Suède.
Ouais. Les Suédois, ils les payaient 3400 euros net.
Bah, comme chez nous, hein.
Il y avait une différence de 1000 euros, quoi. En
comme chez nous, on paye moins les immigrés que les Français.
Non, mais vous vous rendez compte que cette société, elle est française, elle n'est pas suédoise. Le pire dans l'histoire, c'est que les deniers sont des deniers publics, puisqu'on vendait des comptes de formation. Et que ces comptes de formation, c'est l'argent français. Et que moi, on arrive à me dire, même à l'ambassade française, oui, mais on est en Suède, on peut pas faire ce qu'on veut. Non, t'as pas compris, en fait. Moi, je suis française comme toi. Et c'est là où la priorité de la France doit primer, je dirais. Là, on doit être dans la priorité. Je suis française comme vous. Cette entreprise, c'est de l'argent de la France. C'est des comptes publics qui nous payent.
Étrange.
Étrange, mais réel.
Adassa, merci de ce témoignage, Adassa.
Merci, Adassa.
À bientôt. Juriste Adassa, qui a connu l'expérience suédoise. À bientôt, Adassa. Nathalie des Pyrénées-Atlantiques, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Protéger les Français au travail, prioriser les Français, qu'en dites-vous ? Et l'immigration en dernier recours, Nathalie ?
Alors, moi, je suis gérante d'une entreprise et je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il faudrait déjà que les Français veulent travailler. Aujourd'hui, on est une petite entreprise, on a du travail pour 5 personnes et on n'arrive pas à en embaucher plus de 3.
Dans quel secteur ?
Paysagiste.
Ah, vous trouvez pas ?
Non, on trouve pas, ou alors quand on trouve, il reste un mois, deux mois, et puis c'est trop difficile, c'est trop fatigant.
Parce qu'on travaille dehors.
Et c'est quoi vos salaires, votre grille de salaire de
départ ? Alors, nous on a une convention collective qui est plutôt sympa, là on a revalorisé les traits des salaires en un an, on les a revalorisés de 15%. Ils sont, nous en net, donc avec les MG, etc., ils sont entre 1700 et 2000 par mois, avec les heures sup et autres, donc... Je pense pas que ce soit non plus trop bas. Enfin, voilà. Moi, perso, je suis payé moins qu'eux. Hein, donc, ça, c'est mon petit coup de gueule.
Et quand vous essayez de recruter, quels sont les arguments qu'on vous oppose ?
Aujourd'hui, ils préféreraient plus de loisirs ou finir à des horaires plus fixes. pour pouvoir aller faire du sport, pour pouvoir aller faire... on a un métier quand même physique, donc c'est vrai qu'on...
C'est-à-dire, vous avez un métier physique compliqué, mais on veut du temps pour aller faire un peu de sport quand même.
C'est ça, voilà.
Bah, en plein air, tant qu'à faire.
Est-ce que vous avez vu une différence avec Est-ce que ça a changé depuis le confinement?
Total.
Le confinement.
C'est, voilà.
Oui, parce que pendant 2 mois, on était payé à faire du sport, donc effectivement, on regrette cette période.
Mais de quoi vivent-ils alors, selon vous, s'ils ne restent pas dans ces
questions
emplois?
Question consignée, on appelle.
Nous, depuis le début de l'année, on a eu 5 personnes qui sont arrivées et reparties. Donc, on propose des CDI directs, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de risque, en fait. Hein. Ouais. Donc, des ruptures conventionnelles, parce que ça ne plaît pas, parce que voilà, ou parce que arrêt de travail sur arrêt de travail tout le temps. Encore aujourd'hui, hein, on en a 5 qui sont en contrat, mais on en a 2 qui sont en arrêt de travail.
De complaisance?
À mon avis, oui. Après, ce n'est que mon avis.
C'est-à-dire, on vous appelle le matin, on vous dit, ah, je ne peux pas venir bosser aujourd'hui, c'est ça?
Ah, ben là, vendredi matin, j'en ai un qui est venu. Alors, il est en rupture conventionnelle de travail, donc il va finir dans une semaine. Il m'a appelé vendredi matin pour me dire, bah, je suis arrêté jusqu'au 29 décembre.
Ah oui,
pourquoi, j'en sais rien.
Voilà. Il a envie de finir plus tôt.
Je pense, voilà.
On confirme.
Voilà. L'autre, c'est un apprenti. Donc, formation,
Et comment faites-vous pour arriver à trouver des bras, alors?
Eh ben, on fait avec ceux qu'on a, donc qui fatiguent, ils sont écœurés de voir les autres. Voilà, on a 3 qui sont, dont mon mari, qui sont plutôt costauds et qui y vont. Donc, on refait les plannings, on redit à nos clients, parce qu'on a eu un client, enfin, de l'autre côté, le confinement a changé autre chose, c'est qu'on a des clients qui veulent tout demain. Donc, à qui on doit expliquer qu'on n'est pas Amazon et que, bah, on a quand même des choses
bien
à faire.
Enfin, voilà.
Et du coup, bah, on retravaille les plannings, on réorganise tout.
Mais vous, vraiment, il y a un avant et après confinement.
Attends, Nathalie, je vous remercie de ce témoignage, vraiment, en toute franchise dans les GG. À bientôt dans les GG.
Merci.
Parce que c'est Bilal qui veut témoigner. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, cuisinier.
Voilà, oui, c'est ça. Je suis cuisinier, oui.
Sans papier?
Exactement.
Vous bossez?
Je travaille. Ça fait 10 mois que je travaille dans un restaurant. Et ça se passe très bien. Bon, on est moi, un Tunisien, un Comorien et un Pakistanais.
Ah oui, c'est
mais vous êtes une pote. Et les autres aussi sont sans papier?
On est 3, il y en a juste un. Il a la carte de séjour.
Et vous travaillez combien de temps, pour quel salaire?
Alors moi, je travaille les horaires, je fais 9h le matin, là je suis au travail, du lundi au samedi, et je fais la coupure à 15h, je reprends à 5h30, et après je finis minuit à peu près.
Vous faites les deux services, ouais.
Comment ça se fait que vous avez
été... Et vous gagnez combien?
Je gagne à peu près 2600 euros.
Et pourquoi c'est vous qui avez été pris alors? Pourquoi votre patron vous a pris, Bilal?
Bah, t'as vu les horaires et les jours de travail.
Allez-y,
Bilal. Dans la restauration, c'est comme ça.
Allez-y, Bilal.
Parce que les Français, il faut le dire, parce que j'ai vu beaucoup de Français venir pour la saison l'été, ils tiennent pas, parce que la cadence.
Voilà.
C'est vraiment très, très difficile. La chaleur, la mise en place, on a vraiment.
Bilal, vous feriez ça pendant 30 ans?
Ben, moi, ça fait déjà 10 ans. Mais moi, j'ai juste envie de dire une chose. C'est déjà, merci la France, parce que grâce à ce pays-là, ça m'a changé ma vie, moi. Parce que où j'étais la misère.
Vous étiez où?
Moi, en Algérie. Ouais. Mais moi, en France, merci, alhamdoulilah, merci. Parce que normalement, on doit respecter ce pays. Ce pays te donne tout. C'est à toi de t'adapter au pays. C'est pas le pays qui a t'adapté de toi. C'est tout, c'est comme ça. Tu travailles. Tu rentres chez toi, tu te tais, tu manges et tu travailles.
Mais Bilal, est-ce que vous comprenez ces Français qui ne veulent pas faire ce que vous faites?
Moi, je ne comprends pas, parce que la cuisine en France, c'est vraiment un beau métier. J'ai appris des trucs vraiment incroyables. Avec un patron, vraiment, il nous a laissé la chance. La confiance, ça se mérite. Tu lui donnes, il te donne.
Et il vous aide à avoir des papiers? Parce que pendant ce temps-là, vous payez des impôts. Hein.
Ah oui, moi j'ai tout déclaré.
Ça, c'est le paradoxe.
Bah donc, Bilal, avec vos fiches d'impôts, normalement, vous devriez pouvoir déposer votre...
J'ai fait une demande, on a fait...
Ça fait 10 mois qu'il travaille.
10 ans, il a dit.
Non mais ici, c'est marrant, les gauchistes du plateau sont déconcertés d'entendre quelqu'un qui est content de travailler.
C'est mon quotidien.
Là, vous êtes là, effectivement.
C'est mon quotidien.
Mais c'est ce que je dis.
Il y a un mec qui dit qu'il aime bien son métier, même s'il travaille beaucoup. Barbara essaye de voir s'il n'a pas par hasard un salaire faible. Manque de bol.
Il y a un patron salaud.
Manque de bol, il gagne 2600 euros, il s'entend bien avec son patron, il est content de son boulot, ça vous coupe la chic.
Bilel, c'est avec ce témoignage qu'on va terminer.
Bilel devrait avoir des papiers. Et Bilel devrait être régularisé.
Alors,
ça arrange peut-être pas trop. Mais
faut-il embaucher en priorité les Français?
Les Français devraient bosser comme lui.
C'est un oui, oui à 84%.
Voter la reine du fond de leur canapé, bah oui.
Pour ceux qui ont suivi le débat, et je remercie Bilel, à qui je souhaite bon courage au quotidien, son exemple était parlant. Dans un instant, le quiz des GG.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story tout à l'heure à 11h. De quel sujet voulez-vous que l'on parle ensemble? De la grève chez GRDF qui a privé 1500 foyers de chauffage en plein hiver, bravo les grèves. Ou sinon de la sanctuarisation des trottoirs pour les piétons.
En plein hiver, bravo les trottoirs.
Uniquement pour les piétons, plus de trottinettes notamment ou rollers ou je ne sais quoi. Vous choisissez sur rmc.fr et on en parle tout à l'heure à 11h. En attendant, allons-y pour les indiscrets GG.
RMC les grandes gueules.
Les indiscrets.
C'est avec le service politique d'RMC aujourd'hui, Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Avec des nouvelles des macronistes battus aux dernières législatives et pas tout le monde. Non mais attends, le recasage c'est... pour qui on veut bien, en fait?
Il y a la face visible, hein. Il y a ces anciens ministres recasés, Christophe Castaner au tunnel du Mont-Blanc et au port de Marseille, Amélie de Montchalin à l'OCDE, Jean Castex à la RATP. Puis il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est pas aussi facile. Pour rappel, il y a eu en Macronie 114 sortants battus aux dernières législatives. 114 sur 350. Et selon nos infos, plusieurs dizaines sont toujours en recherche d'emploi aujourd'hui. Les recasés, c'est une minorité, nous a dit un ex-élu du Modem qui a compté un tiers des battus sont dans l'impasse. Et pour eux, c'est urgent parce que pour un député, figurez-vous que le chômage, c'est 6 mois maximum. Il n'y a plus d'indemnité au-delà de 6 mois. Ça veut dire qu'au mois de janvier, en fait, c'est fini. Alors, c'est plus facile pour ceux qui étaient fonctionnaires, qui étaient libéraux, les médecins, les profs. Mais pour ceux qui ont quitté le privé, et ils étaient nombreux hein, en 2017, bah, c'est bien plus compliqué.
Oh, bah alors, c'est quoi le problème? C'est que du coup, ils sont étiquetés politiquement, c'est ça?
Oui, il y a l'un de ces ex-députés qui nous l'a clairement dit. Hein, pour ceux qui ont pris la lumière, c'est dur, on est marqué politiquement. Les entreprises ne veulent pas de personnalité exposée. Elles ont peur de la dépêche, du papier dans la presse locale. Ça donne beaucoup de CV sans réponse et ça en agace plus d'un. En fait, dans le privé, on vous ferme la porte. Si vous êtes nommé dans le public, on vous accuse d'être casé. En fait, quoi que vous fassiez, on vous le reproche. C'est énervant. Un ancien élu.
Il y a du boulot dans la restauration et puis dans le bâtiment.
Pleurer.
Mais ça pose des questions après.
Pleurer.
Qui va vouloir devenir député s'il n'y a pas la possibilité de rebondir?
C'est pour ça qu'il y a majoritairement des fonctionnaires.
Et la politique, est-ce qu'ils sont passés à autre chose ou pas?
Alors vous imaginez bien que non. D'abord, ils n'ont pas totalement coupé les ponts. Ils se serrent les couilles. Ils sont tous en contact sur une boucle de messagerie Telegram qui s'appelle au début les virés pas déprimés, qui est devenu plus député mais toujours engagé. Alors ils sont 150, des anciens députés, des anciens conseillers.
Plus député mais bientôt suicidé. Non, c'est pas ça.
C'est pas ce point-là.
Ah non, c'est une autre boucle. Pardon. Non, c'est une autre boucle.
Impitoyable, Constantin.
C'est la boucle des LR.
Attends, vas-y, finis.
Le président leur a permis deux choses. De les aider. Il a chargé l'un des conseillers à l'Élysée de le faire pour retrouver un job. Et quand il les a tous reçus à la fin du mois d'août, il leur a dit aussi, tenez-vous prêts à repartir en campagne. Hein, on ne sait jamais, on connaît le contexte. L'un d'eux nous a dit on ne s'emballe pas, se préparer, oui, mais on ne compte pas trop dessus non plus.
C'est une blague. Enfin, je veux dire... Un mec pour les aider à retrouver du taf, non mais c'est quoi ceci?
Le président.
Le président leur a dit, on vous laissera pas tomber. Vous vous êtes engagé pour nous.
Il y a un conseiller qui est président.
Il y a un conseiller.
On est où là? Ce sont des adultes qui ont fait un choix à un moment, un choix politique, et doivent assumer leur choix. On n'est pas avec des gamins, on n'est pas avec des apprentis en formation. T'es un adulte, tu choisis de faire de la politique à un moment, certainement parce que tu as des ambitions d'abord personnelles, parce que tu te dis ça peut m'emmener loin, ensuite parce que peut-être tu sers une cause, je n'en sais rien.
Étienne reconnaît que c'est pas normal, c'est plus simple finalement pour les anciens ministres
les chouchous, on va dire.
Oui, oui,
Castaner,
oui.
Montchalin et Castex, qui, à qui vraiment on a tout de suite trouvé les. Enfin, et d'ailleurs, parfois, ils sont mieux payés que quand ils étaient ministres. Et certains députés qui étaient peut-être plus anonymes, moins proches d'Emmanuel Macron, c'est plus dur.
Oui, mais enfin, ils se sont pas
favoritistes.
Ils se sont pas sacrifiés. Tu nous parles du métier de député comme si c'était un métier sacrificiel. C'est pas un métier sacrificiel, c'est un très bon boulot, député, où on gagne bien sa vie, où on est, où d'un seul coup on passe souvent, et notamment chez les macronistes, puisqu'il y avait souvent des gens qui venaient de la société civile et qui n'étaient pas des gens qui gagnaient des fortunes ou qui étaient des patrons ou qui, tout le monde n'était pas Macron qui gagnait des sous dans une banque. Donc, je veux dire, les mecs, ils sont venus souvent de rien et les femmes sont venues souvent de pas grand chose, et ils ont été élus, gloire à eux, et ben maintenant ils recherchent du taf comme tout le monde, mais peut-être qu'ils étaient à 2000 balles et que de repasser à 2000 balles, c'est dur.
Moi, je leur conseillerais d'aller voir le conseiller mobilité à l'éducation nationale.
Voilà, c'est
une petite dame ou un petit monsieur que vous allez voir quand vous ne sentez pas bien l'éducation nationale et que vous voulez faire autre chose. Et bien là, c'est à peu près le genre.
Monsieur Consigny.
Il te conseille d'aller voir ailleurs.
Voilà. Non, moi, je compatis, si vous voulez, avec eux, mais je pense qu'en effet, ils doivent retourner dans la réalité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient... satellisés et d'autres qui soient dans le réel.
On a aussi quelques-uns qui a des...
Je pense, par exemple, franchement, je serais curieux de voir ce que va faire Madame de Montchalin à l'OCDE. Je serais curieux de connaître son salaire.
10 000 euros.
10 000 balles.
Ben voilà, pour faire quoi à l'OCDE qui...
Elle est ambassadrice.
Merci, merci, monsieur Sébastien.
Pour ne rien faire.
À demain, Sébastien.
À demain.
Le quiz, s'il vous plaît, maintenant. Le quiz.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent... Le quiz des grandes gueules.
Le quiz avec Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Barbara, Charles, parce que je sais que ces Coupes du Monde au Qatar vous passionnent. Je vais vous parler des à côté du match France-Danemark qui avait lieu samedi.
Je l'ai regardé partiellement.
Alors, avec qui Mbappé, alors ça, c'était pas pendant le match, avec qui Mbappé a pris la pause à l'issue du match?
Ivanka Trump et ses enfants.
Micro.
Ivanka Trump.
Je l'ai dit d'abord.
Non, mais parce que moi, j'ai plus de voix. Effectivement, vous avez tous les deux gagné. Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, venue en famille avec son mari, ancien haut conseiller à la Maison Blanche, et leurs trois enfants, voir le match des Bleus contre le Danemark.
C'est improbable, quand même.
Et elle a posté sur ses réseaux une photo de famille avec Kylian Mbappé dans les coulisses du stade.
Alors, je regardais les commentaires disant Mbappé aurait dû refuser, quelle honte, c'est pas possible.
La famille Trump, elle a la gale en mode groupie.
Elle a la gale.
Mais ils savaient qui c'était.
Bah, justement, c'est la grande question.
Pas sûr.
C'est la grande question. Mais qu'il
sur les badges, c'est
quand même.
Sur les gros
VIP.
C'est en gros sur les accrédites.
Il a signé un maillot du PSG pour les enfants.
Non, c'est pas les Ben Laden non plus, les
trois. Oui, voilà.
À la gauche,
les GG, qu'ont fait les supporters des Bleus à la fin du match, les supporters en tribune?
Ils ont nettoyé les tribunes.
Ça va te plaire, Barbara. Effectivement, ils ont.
Les Japonais.
Ils ont effectivement, ils ont fait le ménage dans leur tribune. Sur les images relayées par les camarades d'RMC Sport, on voit les supporters français exemplaires qui ramassent remparts.
Elle est bonne celle-là.
Tous leurs déchets dans de grands sacs poubelles.
Alors en France, ils te laissent la dégueulasserie partout.
Et parce qu'en France,
quand ils sont au Qatar, dans un état totalitaire où on les empêche de faire ce qu'ils veulent, de mettre les brassards qu'ils veulent, de boire ce qu'ils veulent, alors là.
Barbara,
c'est les petits toutous qui ramassent les saletés.
Une fois qu'on fait quelque chose de bien.
Il faut un peu d'autorité.
L'alcool, elle est interdite dans les stades ici aussi.
La conclusion.
Oui, mais
peut-être
pas
que si on donnait des sacs poubelles, parce qu'on ne donne pas des sacs poubelles dans un stade.
Abords. Toutes les commerces étaient fermées.
T'as pas de sacs poubelles.
En fait, c'est les Japonais qui ont donné le tempo. Ensuite, les Marocains ont suivi. Et maintenant, les Français. Donc, qui sera le plus propre pendant le concours?
Et ça serait bien qu'effectivement, ça se passe partout.
Tiens, une question.
Tiens, le mec qui a jeté son frigidaire ce matin sur mon trottoir, ce serait bien aussi qu'il vienne l'enlever.
Voilà.
Monsieur Georges,
un frigidaire énorme.
Oui, mais c'était pour le faire enlever.
Il n'y avait pas le papier des encombrants.
Les GG,
vous avez... Il y a qui sous le frigidaire, c'est ça?
T'as raison, Georges, ouvert. Il y a peut-être sa belle-mère dans le frigidaire.
C'est clair, au petit. Charles, Barbara, vous savez quand même que Benzema est blessé, il est rentré chez lui, il est
pas
prêt. Vous n'êtes pas passé à côté de cette info.
Excusez-moi, il ne manque pas pour l'instant.
Est-ce que Karim Benzema sera champion du monde si les Bleus vont au bout du mondial? Vraie question.
Ah, une vraie question.
Réponse,
de type philosophique.
Est-ce qu'il aura la médaille de champion du monde?
C'est pas philosophique, c'est règlement.
Eh bien, oui, l'attaquant tricolore aura bien une médaille comme les 25
encore un feignant qui va rien faire et qui va se retrouver avec une médaille.
Et c'est la FIFA qui l'a confirmé à nos camarades.
Il faisait partie des 26 officiellement.
Ouais, mais en attendant, c'est Giroud qui marque.
Les GG, vrai ou faux, confrontés.
Cette Coupe du Monde.
Écoutez-moi. Ah, bah, si vous voulez parler de la Coupe du Monde, si ça vous passionne.
Non, non, pas du tout.
Non, mais France-Danemark, j'ai bien aimé regarder.
C'est vrai?
Ah,
bah
voilà.
T'as regardé combien de temps?
C'était groupe. Diffusé à ma salle de sport.
T'as chanté la Marseillaise.
Donc, tout en faisant du sport, j'ai regardé le match.
Ça t'a motivé?
Je me suis senti patriote, je me suis senti en soutien de mon équipe.
Bon, les
oh. C'était les odeurs de sueur qui te donnaient ça.
Vrai ou faux, confronté à la colère des GG.
Très exclusif.
Vrai ou faux, confronté à la colère des Chinois contre la politique zéro Covid, la télévision chinoise a censuré les images de foule dans les stades.
Ah bah ouais, c'est vrai.
Bah oui, c'est carrément vrai.
Parce que les gens pas de masque.
La télé chinoise qui ne veut plus montrer d'images de spectateurs sans masque lors de la diffusion des matchs. Hein,
c'est trop tard. Et puis il y a des images qui arrivent dans surtout des téléphones chinois.
Les GG. Si ce début de semaine est pénible pour vous, pensez à Manuel Valls, qui vient de se prendre la plus grosse amende jamais infligée à un parti politique en Espagne.
Il n'y a que des dingueries, là.
Combien l'ancien Premier ministre va-t-il devoir rembourser?
700 000.
277 000 euros pour financement illégal de sa campagne au municipal de Barcelone. C'est son mouvement, lancé en Espagne pour les municipales.
Je crois que sa femme a les moyens.
Il devra rembourser. C'était en 2019.
Elle a les moyens, sa femme.
Lundi 28 novembre, c'est l'anniversaire de Chaim. Vous connaissez Chaim? Qui? Mais si, la chanteuse.
Et d'un autre. Elle chante encore?
Je crois qu'elle a des petits rôles à la télé.
Ah bon?
Et c'est l'anniversaire aussi d'un homme politique qui fête ses 52 ans. De qui s'agit-il? 28 novembre 1970.
Gauche, droite, attends, macroniste.
Alors, centre.
Édouard Philippe,
32 ans. Petit indice sonore.
Édouard Philippe, bravo Olivier. Progressivement du confinement en respectant cet impératif de préservation de la santé des Français.
Ah, il nous manque. Anniversaire, hein. Il a que 52 ans.
52 ans, ouais.
Alors, il nous manque Barbara.
Ah oui, j'y pense tous les matins. Je me dis, mais qui me manque à ce point? Je me dis, mais oui, c'est Édouard Philippe.
Et puis les GG.
Et du coup, t'as envie d'aller au Havre?
À mort.
Les GG, en 18 ans d'émission, qui a quitté le plateau sans jamais revenir?
De quel plateau?
Ici, le plateau GG.
Il y a une seule grande gueule qui a quitté le plateau sans jamais revenir. De qui s'agit-il?
Moi, je sais.
Mais oui, parce que t'étais là aussi.
J'étais là aussi. Bah, c'est toi qui as pas Charles.
Ah, mais je suis revenu dans l'émission quand même. Oui, ce jour-là, je suis pas revenu.
Et qui a réussi cet exploit? Qui a énervé notre Charles? Bah, c'est toi, Étienne.
Bah, qui d'autre?
C'était l'été 2014, il y a 8 ans.
Écoute, Barbara.
On écoute, on regarde.
Tu peux y aller. On t'a payé tes études jusqu'à 30 balais. Tu peux y aller tranquille jusqu'à 90 ans et tu seras pas crevé. Moi, mon père, il est mort juste après avoir pris sa retraite. Excuse-moi. Mais tu peux, mais oui.
Mais c'est une homme mal. Désolé,
tu es des pauvres. Je suis désolé. On peut pas tout être avocat. Et tout bas,
c'est à cause de gens comme toi qu'on est là où on est aujourd'hui. J'ai jamais entendu un discours aussi con. Il fallait que je vienne ici pour entendre un connard pareil.
Non, pas d'insulte. Il a droit de. Non, Charles conseiller. Attendez, Charles, on débat, on a le droit de débattre. Attends, Consigny, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ben Charles Consigny est parti. Il n'accepte pas le débat des grandes gueules, c'est un vrai souci. Tu l'as énervé là, tu l'as énervé, c'est un vrai problème.
C'est ça, je n'ai dit que la vérité.
Sous les baillis de Claire Petit.
Pour les auditeurs qui ne sont pas sur la télé,
j'avais plus
on
de
avait
cheveux.
Quand même un gros problème capillaire au niveau de Charles.
Bah là, il a été réglé de manière un peu à mon corps défendu.
Alors que Olivier, non. Olivier, il est toujours pareil.
Et Claire Petit était là.
On ne dit pas une.
Et ne moufte pas.
Elle a dit qu'elle avait des acouphènes.
Et alors, c'est vrai que. Charles n'est jamais revenu. C'est-à-dire qu'on a fini l'émission. Alors c'était plutôt la fin, heureusement. On a fini l'émission sans lui.
3.
Avec deux autres grandes gueules.
Et Claire
disait rien, Claire. Il t'avait énervé. Hein.
Ah ouais.
Ça va mieux depuis.
Il t'énerve de temps en temps.
Sur moi.
Il prend en toi.
C'est la sagesse.
On perd des cheveux et on est plus calme. Et après, c'est la mort.
On va mettre cette séquence mythique sur les réseaux sociaux, sur notre compte, Twitter. 8 ans.
2014. À la fin.
Dans un instant, avec.
On a trinqué.
Avec les GG, avec les grandes gueules.
Salut, c'est GG.
Vous avez
pris. Suite des réjouissances.
On a pris 15 ans, 8 ans.
Ah, mais j'étais pas là ce jour-là en plus. Suite des réjouissances. Sapin de Noël. Est-ce que la tradition doit être plus forte que l'écologie? Oui ou non? Oui pour Charles et Olivier, non pour Barbara et Étienne. Et on verra quel sujet vous avez choisi. La grève chez GRDF qui a privé 1500 foyers d'électricité, de chauffage, ou bien sanctuariser les trottoirs pour les piétons. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.